les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1997, pour les nuits magnétiques, c'était autour d'un civet de lapin que Patrick Casals rencontrait Jeannine Bazin. Un plat comme ceux qu'elle préparait quand, avec André, du côté de Nogent-sur-Marne, elle accueillait à sa table Renoir, Buñuel ou Rossellini. Tandis que mijotait le lapin, Jeannine Bazin parlait de son travail au Festival Entrevue de Belfort, qu'elle avait refondé dans les années 80 et dirigeait encore. Elle évoquait André Bazin, des souvenirs de jeunesse, les cinéastes du passé, ceux du présent, et bien entendu, la très mythique série documentaire de l'ORTF, à laquelle son nom et celui de André S. Labarthe sont associés, cinéaste de notre temps, relancé sous le nom Cinéma de notre temps dans les années 90. Au premier rang de ceux que l'on entendait dans cette nuit magnétique, Labarthe témoignait de son amitié pour Jeannine Bazin et de l'œuvre monumentale, unique en son genre, qu'ils avaient réalisée ensemble. Jeannine Bazin, sous le signe du lion, une émission diffusée la première fois le 21 mars 1997 sur France Culture, avec les témoignages de Xavier Carniaux, Jean-André Fieschi, Hervé Leroux, Claire Denis, Jean-Pierre Chevènement et un civet de lapin qu'accompagnaient des pommes de terre.
Oui, bonjour Jeannine, Patrick, merci. Nuit magnétique, Jeannine Bazin, sous le signe du lion. Patrick Casals, Marie-Ange Garandeau.
Moi, cinéma, ce que j'aime bien, c'est quand même que ça me raconte des histoires, comme tout le monde, mais c'est surtout que, ou bien ça me fasse quelque chose dans la tête, ou bien dans le cœur, ou bien dans le ventre. Et je dirais que peut-être que Godard, ça me fait beaucoup de choses dans le ventre. Tu vois, je veux dire, je suis incapable d'expliquer pourquoi j'aime les qualités de tel et tel film. Mais je les ressens, quoi. Qu'est-ce qui reçoit les vents, les odeurs, les machins comme ça, tu vois? Pas plus. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Allô? Oui. Oui, non, je peux pas te parler pour l'instant.
Ah, monsieur le marquis, les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop, même. Mais c'est à cause des ennuis.
À qui le dis-tu?
Ça va pas, vous non plus?
Pas fort.
Oui, bonjour Jeannine, Patrick, merci.
Bah oui, on est pas trop tôt.
Oh, la radio, l'heure, c'est l'heure. Hein.
Il faut démarrer quand?
Ah, j'ai démarré vers 10h.
10h, ouais.
Oui. Tu vois. J'espère qu'il va être bon, j'en sais rien. Tu peux le sentir, mon Dieu?
Non, ouais, il me semble que c'est pas mal. Un peu de romarin, non, hein?
Non, c'est du thym.
Du thym. Mmh.
Le romarin, c'est mieux pour l'agneau.
Oui.
C'est bon.
Alors, tu fais mijoter combien, là?
Il faut bien que ça mijote 2 heures.
2 heures,
tout
ouais.
Petit, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Bon, bien.
Enfin, mais c'est pas exceptionnel. Hein,
ah, bah non, c'est un
civet, quoi.
Ouais.
C'est...
Bon.
Est-ce que ça vous ira, ce pain?
Oui, il me paraît bien. Hein.
Voilà. On revient quand il reviendra.
Ben oui, parce que si la sauce est délicieuse, il va falloir y mettre du pain.
Oui, je vous donnerai les petites cuillères. Bon, allez, on va croquer un morceau.
D'accord.
En buvant un coup.
Voilà.
D'accord. Voilà.
Alors, tu travailles sur le frangu, là?
Oh ben moi je travaille sur le frangu, n'exagérons pas. Ouais. Je suis allée le voir hier après le mixage, ouais. Je veux dire. Mais ouais. C'est tout. Je veux dire que l'organisation est devenue un peu différente d'avant, parce que maintenant qu'il y a un vrai producteur, tu comprends.
Ouais. Ouais.
Avant, il fallait un peu faire la retape dans les couloirs.
Ouais. Ce dont tu te chargeais.
Voilà, c'est ça. Tandis que maintenant, c'est un peu lui aussi qui va faire la retape, bon, donc voilà. C'est parfait. Donc
tu lui as délégué tes pouvoirs.
À vrai dire, je ne sais pas ce que je fais sur ces émissions. Xavier pense que je suis très importante. Mm-hmm. La barre pense qu'on ne se séparerait pas de moi, mais moi, je me pose des questions.
Bon. Mais quand même, en revoyant par exemple le Renoir, on voit que là, tu intervenais beaucoup sur cette émission.
Oui, mais parce que, bon, bah, d'abord parce que c'était Renoir, parce que ça se passait autrement, parce que, je veux dire, tu vois, c'est pas... C'est très, très différent, quoi, je veux dire.
Mais même les interventions et les petites précisions, souvent, c'était toi qui les donnais.
Oui, oui, non, maintenant j'en donne dans la coulisse.
Il semblait mieux connaître l'œuvre de Renoir que Michel Simon, c'est sûr.
C'est sûr, mais pas Crivette, en tout cas.
Voilà. Dis donc, t'as pas vu mon cleps ? Hein ? Un chien noir avec des poils longs comme ça, il a dû passer par là. Ouais.
Je sais que quand on était allé le voir à Noisy-le-Grand, où il avait sa maison, il n'y avait plus les singes, mais il y avait encore les cages des singes. Et ce n'était pas des cages, c'était assez extraordinaire, parce qu'il avait fait installer dans l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et peut-être le deuxième étage, tu vois, une espèce de... d'habitation, quoi, en grillage, c'est sûr que ça entourait tout l'escalier, c'est-à-dire que les singes...
Les singes pouvaient se promener dans la cage.
Se promenaient...
Dans la grande cage d'escalier, mais en cage.
En cage, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était pas pour Zaza, c'était pour les singes qu'il a eu après, quoi.
Mais ici, avec André Bazin, vous avez eu des animaux, toutes sortes d'animaux aussi, non?
Oui, mais j'en ai eu encore... Oui, j'ai
alors
connu les...
Il y a eu un perroquet.
Ah oui, j'ai eu le perroquet, qui était une chose exceptionnelle, un perroquet. Puis, qu'est-ce qu'on a vu de... qu'est-ce qui m'a ramené les crocodiles.
Le crocodile.
Le crocodile, je te raconterai pas le crocodile, parce que ça te ferait pleurer. Et puis, mais après, c'est avec le fils que j'ai eu un singe.
Oui.
Un macaque.
Mm-hmm. Ouais. Oui. Donc, il a circulé ici.
Ah oui, on a beaucoup vécu avec Inès, il y a tant d'années, ça. C'était une histoire d'amour fou, tu vois. Déjà, un perroquet, tu vois, t'as des rapports différents avec un oiseau, je veux dire, tu vois, c'est au-delà. Et un singe, alors là, de temps en temps, tu te dis, j'ai mis mon mec dans cage, tu vois. C'est... Ah oui.
Ouais, et le crocodile dont,
oui, mais ça, le crocodile,
dont vous aviez fait don, tu sais...
Alors, je n'avais pas de passion pour le crocodile.
Ah bon?
Non, je n'avais pas de rapport intime avec le crocodile. Il ne faut pas croire ça. C'est le genre de bestiole que je... qui me fait comme ça, des boutons dans le dos. Et les serpents aussi.
Ouais, c'est ça. Ceci tout ce qui est radisol, ça te...
Avec Flo, j'ai été gâtée parce que de temps en temps, il ramenait... 39 couleuvres, enfin, etc. Mais ça, je ne voulais pas le savoir. J'ai eu un iguane aussi.
Ah oui, l'iguane.
Qui n'a pas vécu très longtemps parce que c'est difficile à nourrir comme il faut. Mais ça, tu avais le sentiment d'un sens de reconnaissance quand tu tapais au carreau de son grand vivarium.
Oui.
Il tournait la tête, il te regardait.
Oui.
Je n'ai jamais vu le crocodile faire ça. Bon. Eh bien,
allez, alors on va...
On tartine, là, comme
on va tartiner.
On peut mettre des assiettes, si vous voulez faire plus
propre. Je sais pas.
Alors, voyez-vous, vous prenez ces soucoupes, vous les empilez les unes sur les autres, ça fait une espèce de tour. Et cette tour prouve l'existence de Dieu. Mais en commençant la tour, vous n'aviez voulu rien prouver du tout. Très mauvais, hein?
C'est bon. C'est merveilleux.
C'est
merveilleux. Et ça ne nous engage pas tellement.
Heureusement. Imaginez que ça nous engage. Ce serait terrible.
tous les cinéastes, au début, ont été tournés pendant des repas. L'émission Gans, c'est également tourné avec Gans dans deux restaurants. Parce que j'avais comme ça une idée que c'est vrai qu'on n'est plus détendu au cours d'un repas que si on est assis dans un coin de bureau ou de jardin public même, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu ramené ça à Belfort en pensant que les gens auraient plus de plaisir à se rencontrer au restaurant que si on organisait une rencontre, débat sur qu'est-ce qu'il faut au jeune cinéma pour exister, tu vois. Mieux que ça s'exprime au déjeuner, quoi.
Et avec Rossellini, c'était aussi... Non,
il y a eu dire Rossellini, ça c'était très... On n'a pas fait d'émission sur Rossellini. Ça a été notre grand désespoir. Pour des tas de raisons, disons pratiques. Quand même, s'il est venu y bouffer ici à Nogent Roberto, je me souviens qu'il préparait les fraises. Il avait une manière de préparer les fraises que j'ai essayé de faire comme lui, mais sans doute que je suis plus nerveuse. C'est-à-dire qu'il faisait tomber une goutte de vinaigre sur chaque fraise pour développer le goût de la fraise. Mais c'est du rail de la vie, mais... Hey, bon. Voilà. C'est un grand cinéaste aussi. Mais non, on n'a pas fait d'émission sur Rossellini. Ça s'est mal engagé. Non, on avait fait un truc avec Roberto, mais je pense que tout ça a disparu avant cinéaste, du temps du service de la recherche. Et c'était, on avait fait un truc avec Truffaut. Mais il ne parlait pas de cinéma, il parlait de l'éducation des enfants. Ce qui pouvait intéresser 12 spectateurs sur 100 000 peut-être. Mais en tous les cas, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je n'ai jamais retrouvé cette pellicule. Voilà. Bon.
Bon, et Janine ?
Attends, attends, que je trouve une suce convenable.
Ouais.
Ça, c'est un reste. Ça, t'as ton porto, si tu veux.
Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de très, très, surtout avec Janine, très intuitif. On ne peut pas... prendre une feuille de papier en disant voilà les raisons pour lesquelles il faut à tout prix filmer tel cinéaste parce qu'il appartient très objectivement à l'histoire du cinéma, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait finalement, si on faisait, les cahiers avaient la politique des auteurs, ils avaient reconnu un certain nombre d'auteurs. Nous, on est venu là-dessus, on a transporté ça à la télévision, mais ça a été différemment. À ce moment-là, il y a un autre genre de politique, c'est une politique, disons, il fallait que ces auteurs, une fois réunis, fassent une sorte de famille, même entre des gens qui ne se connaissaient pas. On peut dire qu'il y a une famille, je crois, cinéaste de notre temps, oui. Mais, donc, et ça, les membres de la famille, on ne les choisit pas, ils s'imposent à un moment donné. Voilà, ça arrive.
Avec la Barthe, les rôles ont toujours été très bien définis. Donc, personne n'a empiété sur l'autre. Et pour des choix de cinéaste, il me fait confiance. Je ne citerai pas de nom, mais il y a peut-être des cinéastes actuels que lui connaissait moins que moi, où il m'a fait confiance. Et donc, ça a fait de très bonnes émissions. Donc, je ne voudrais pas que ce soit mal entendu et qu'on croit que c'est moi qui fais les émissions. Ce n'est pas du tout ça, mais il se trouve que on fonctionne en harmonie. Et ce qui est bien dans la série actuelle, Cinéma de notre temps, parce que Dieu sait que j'en ai bavé pendant le temps de Cinéaste de notre temps avec l'ORTF. Avec la Barthe, ça a toujours fonctionné comme des gens qui savent qui ils sont. Voilà. Il ne s'est pas fait d'illusions sur moi. Il n'a jamais eu de mépris parce que j'étais moins... J'étais pas Bazin lui-même, tu vois. Bon, voilà. Et donc, ça a toujours très, très bien fonctionné pour travailler. C'est ça, la réussite de la série, quoi, je veux dire.
Voilà. Je te mets ça où ? Par là ?
Là, par là.
Bon. Alors, je pousse le chariot ?
Oui, monsieur.
On y va. Il n'y a pas d'attrape-nigo, hein?
Non, ça va pas.
Ça va rouler?
Ça va rouler.
Super traveling.
Voilà, bon. Tu peux déboucher.
Alors, les verres, oui. Alors, Bourgogne, récoltant à Irancy.
Je
te sers, hein.
10 ans, mais je crois que le Bourgogne, 10 ans, c'est pas...
Non, c'est bien.
Ah, il est un goutte.
Alors, donc, à Belfort, il y a quand même un moment important, ce sont ces repas le soir.
C'est une ville tout à fait charmante, devenue charmante. Moi, je l'ai connue un peu triste, mais je trouve qu'elle est devenue maintenant très, très accueillante, très jolie, douce, tu vois, même au mois de novembre, bon. Et c'est que les séances se terminent à 10h30, 11h, les séances de compétition. Mmh. Et que, quels sont les restaurants qui veulent bien ouvrir jusqu'à 1h du matin?
C'est le drame des régions, ça.
Ce sont les restaurants, les bons restaurants, voilà. Mais finalement, le cinéma, c'est des fines gueules, quand même. Quand on leur propose... un bifteck haché et de l'autre côté un foie gras, peu choisissent le bifteck haché. Peut-être qu'ils le choisissent chez eux, mais pas dans les festivals. Mmh. Et donc, ça fait forcément des groupes. Et c'est pour ça que ça crée cette espèce de tablé quand même assez sympathique, quoi.
Hervé Leroux, l'esprit de Belfort, ça existe?
Belfort, c'est très particulier et c'est... C'est un festival même unique, quoi, parce que c'est, je crois, le seul festival où il n'y a pas l'esprit de compétition. C'est une compétition, il y a des prix à la fin du festival, mais pour un cinéaste ou pour un producteur, pour un comédien qui vient présenter son film, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans tous les autres festivals où on se regarde un peu en chien de faïence... On essaye d'entendre les bruits pour savoir comment son film est accueilli par rapport aux autres, surtout, parce que ça, c'est très important. Là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que on vient montrer son travail, on vient montrer son film à un public qui est le public d'habitué, le Belfort. On sait qu'il y aura aussi dans la salle les cinéastes, les gens de cinéma, une petite tribu de cinéma comme ça qui vient à Belfort, qui finit par se coopter en revenant année par année. J'ai l'impression de montrer son travail et pas de participer à une compétition. Et ça, c'est très agréable.
Les cinéastes présents ont aussi envie de voir les films des autres. Ça, c'est...
Ah oui, il y a cette espèce de lieu qui est donc le cinéma Alpha à Belfort, où
cette galerie marchande.
Cette galerie marchande, les petits cafés où entre deux films, tout le monde se retrouve parce qu'il y a deux cafés. Donc forcément, il y a vraiment le côté tribu, côté petit camp indien. Et on passe du café au cinéma et on se retrouve forcément dans les projections. Et il y a une grande table ou deux grandes tables. Enfin, un côté table d'hôte, quoi, un peu à Belfort.
Il fait pas très chaud, hein, parce que c'est l'hiver.
Voilà, en plus c'est l'hiver. Donc là, pour une fois, on est très content qu'il y ait un cinéma dans une galerie marchande, alors que des fois on se dit bon, est-ce que c'est bien à l'esprit cinéma, et on a le temps de se connaître, y compris cinéaste, c'est un métier un peu solitaire, enfin on travaille avec une équipe, avec des comédiens, mais on rencontre pas les autres, quoi. Ce qui me frappe le plus chez Janine, c'est une espèce de calendrier, Janine Bazin. C'est-à-dire que si on part en début d'année, janvier, février, c'est le festival qui vient de terminer. Donc il y a un côté un peu temps de récupération du sportif. Parce qu'un festival, c'est une épreuve. Hein. C'est du matin à 8h jusqu'à les dîners de Belfort. Ils se terminent à 2h du matin. Et puis ça se continue dans le hall de l'hôtel. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Et puis après... Février-mars, c'est le moment où Jeannine, en général, nous dit que, bon, cette fois-ci, ça s'était vraiment bien passé, par miracle, mais que c'est vraiment un miracle, ça se reproduira plus jamais, et que c'est la dernière fois qu'elle faisait le Festival de Belfort. Et puis après, mars-avril, elle commence à dire, il faudrait trouver une idée.
Oui.
Mais alors, bon, tout a été fait, bien sûr. Donc l'idée, rien n'est moins sûr qu'on puisse trouver l'idée. Et puis, en avril, on sent que l'idée, elle est là, quoi. Il y a quelque chose dans le regard. Et puis, fin avril, début mai, l'idée commence à circuler. Et puis, après, on la retrouve à Cannes. Alors là, déjà, bon, on lui dit que l'idée est bonne. Elle dit oui, donc ça veut dire qu'elle l'a déjà vérifiée un peu partout. Et puis là, elle part à la pêche au film étranger. Elle ratisse toutes les sélections. Et bon, là, elle est déjà en bataille. Puis mai-juin, il y a encore le tout petit dernier déclic qui est qu'inévitablement, dans l'équipe, il y a une personne qui, au bout de 4-5 ans, passe à autre chose. Et alors là, c'est de nouveau le désastre. Ça remet évidemment en cause toute l'économie du festival. C'est une personne absolument irremplaçable. On n'a aucune idée de qui pourra la remplacer. Et en général, on la retrouve en septembre, où là, évidemment, l'équipe est au complet. Et le petit nouveau, la petite nouvelle, est quelqu'un d'absolument formidable, qui a revitalisé, qui a apporté quelque chose au festival, et c'est reparti. Et puis après, il y a une toute petite dernière angoisse, qui est fin octobre, début novembre en général, qui est qu'il y a un film ouzbek dont on ne sait pas s'il va être définitivement sous-traduit. Et puis, il y a souvent, dans la rétrospective intégrale qui fait 86 films, dont un moyen-métrage, on a bien les 85 films, mais le moyen-métrage est à la Cinémathèque de Buenos Aires, et donc Jeannine est en discussion et en fax avec Buenos Aires, et quand on lui fait remarquer, parce qu'on voit qu'elle est totalement exaspérée et sur les nerfs de ne pas avoir ce moyen-métrage, que bon, si elle a les 85 longs-métrages, la programmation est quand même assez décente. Alors là, elle nous dit que non, on avait annoncé une rétrospective intégrale, donc il ne s'agit pas de plaisanter à ça. Moi, c'est plutôt ça l'image que j'ai de Jeannine, cette espèce de rythme comme ça, des saisons autour de Belfort, quoi.
Alors, salade, avocat, pamplemousse.
Oui.
Les pamplemousses un peu secs, peut-être, tu dis?
Oui, j'ai dit qu'ils étaient un peu secs. Voilà, c'est très bien pour
avec
moi.
Avec de la crème, et c'est bon?
Bah, écoute, on va voir, hein. C'est une expérience. Hein.
D'accord. Voilà.
On avait fait des tas de bribes avec Franju, et jamais une émission complète avec Franju. Pas seulement parce qu'il est mort, mais parce que nous n'avions plus d'émission, je veux dire, quand même.
Ouais.
Ça s'est quand même arrêté en 72, c'était la dernière émission avec McLaren, je veux dire.
Ouais.
Et on a donc repris avec Cinéma de notre temps en 88, tu vois. Donc il y a un trou, il y a quand même énormément de cinéastes avec qui on aurait aimé faire des choses et qu'on n'a pas fait, je veux dire.
Et parmi ces films, quels sont ceux qui, pour toi, montrent vraiment que c'est l'un de ces grands cinéastes que vous avez souhaité fêter à travers cette collection?
Tu sais, c'est quand même, à part Le sang des bêtes, dont on reparle tout le temps, je trouve que Les yeux sans visage, c'est quand même un film Judex. Mais Judex, tu sais, je pensais, quand tu me disais de penser à des extraits de films, c'est que des fois, tu revois les films qu'à travers l'extrait que tu as choisi, qui était forcément... Bon, Le bal des oiseaux, c'est quand même superbe. Et puis, moi, j'aime bien Thomas l'imposteur. Voilà. Mais il aurait fait que Les yeux sans visage et Le sang des bêtes. Ça serait un cinéaste inoubliable, franchement.
Ce qui me fait peur, c'est l'anormal. C'est l'insolite. L'insolite, c'est l'anormal. Or, l'insolite n'est pas dans la forme. L'insolite est dans les situations. C'est l'enfant qui se promène la nuit dans un bois. Si c'est un homme, bon, il n'a pas peur. C'est un enfant, on a peur. Si on voit un type qui se balade à la campagne avec un fusil de chasse sous le bras, c'est un chasseur. Le même type qui se balade aux Champs-Élysées avec un fusil sous le bras, c'est sûrement pas un chasseur. C'est parce que le personnage est dans une situation qui fait peur. Et c'est de là que naît l'angoisse. La peur, je veux dire que le fantastique se crée, mais l'insolite se révèle, et se révèle généralement du quotidien.
Tu ne crois pas sentir comme moi une petite odeur de brûlé?
Peut-être. Merde, le lapin!
Faut qu'on y aille. Ce ne sont que les patates, non.
Si, ce ne sont que les patates.
On a sauvé l'essentiel.
Oui, ça ira.
Bon, sauvé. Bon. Ça va.
Le premier film de la série, c'était un film consacré à Buñuel. Pour des raisons de commodité, parce que Buñuel, il était un des premiers sur la liste, évidemment, comme Renoir, Roger Lénard, enfin, des gens comme ça. Et il a donné son accord tout de suite.
André Labarthe.
Comme il était en Europe. Et on a donc tourné. Et puis, on a choisi donc un réalisateur dans la maison, dont on avait apprécié les réalisations, qui était Robert Vallée. Et donc, Robert a fait le film, où j'ai pas mis les pieds dans la salle de montage. J'ai juste écrit un texte, trois lignes de commentaires. Mm-hmm. Puis ça a été mon seul apport au film. Et puis le second film, ça a été un film réalisé par Hubert Knapp, précisément sur la Nouvelle Vague. Et où on avait filmé tous les gens de la Nouvelle Vague. Alors évidemment, dans ces films-là, je participais dans la mesure où je faisais les interviews de Buñuel aussi bien que des gens de la Nouvelle Vague après. Et puis petit à petit, je me suis aperçu de ça. J'étais jamais satisfait après du résultat. Quand je voyais le film de Buñuel, le film de la Nouvelle Vague... enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait. Et on a fait un film sur Godard. Et là, je suis rentré dans la salle de montage.
Il y a des évidences comme ça pour des réalisateurs. Il y a des moments où les choses se précisent autour de la nécessité de faire un film avec ce réalisateur, sur ce réalisateur et avec un réalisateur.
Oui, il y a des fois des aventures qui arrivent en cours de route, je veux dire, parce que... je pense que quand Labarthe et Knapp sont partis aux États-Unis, il n'était pas vraiment prévu à l'avance, enfin tout au moins, on n'avait pas négocié avec l'ORTF de faire un film sur Cassavetes. Parce que de toute façon, ils ne savaient pas qui c'était. Et tu me diras que déjà Sternberg, je ne suis pas sûre qu'il savait vraiment. Et donc, c'était un peu l'occasion, je veux dire. Il y a aussi des occasions comme ça, je veux dire, quand on a fait avec Comolli les émissions sur le cinéma hongrois, qui était une émission de série, tu vois, où il y avait tous les jeunes, c'était le jeune cinéma hongrois, donc ils étaient 4 ou 5, il s'est avéré évident que Yang Cho fallait faire une émission sur lui tout seul. De la même manière pour le cinéma italien avec Fieschi, au départ c'était Bertolucci, tu vois, etc., etc. Bon, et t'avérais qu'il était nécessaire que Pasolini y ait une émission entière sur lui, tu vois. C'est un petit peu comme ça aussi que les choses arrivaient, quoi, voilà.
Quand j'ai été filmé Pasolini, peu de gens savaient qui il était et il était très important de lui donner la parole. Le fait de pouvoir travailler avec un cinéaste, s'approcher d'un cinéaste et d'autre part de se retrouver ensuite au montage avec ce matériau-là et le matériau même utilisé par le cinéaste, c'est-à-dire... Les films ou les extraits de films, et je me souviens qu'à ce moment-là, on faisait tirer quasiment les films entiers pour les extraits. Ce que chacun d'entre nous qui a fait ce travail en a appris quant au montage, avec des phénomènes de mimétisme complètement passionnants, la façon dont Rivette a tourné le Renoir au bord de Marne, avec Jeannine qui était présente constamment là...
a évidemment à voir avec ce qu'était aussi Renoir. Et... le film que j'ai fait sur Pasolini peut à juste titre faire partie aussi de la filmographie de Pasolini. On l'a fait ensemble.
Cornuti! Cornuti, 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 cornuti! Mi spacco l'ombrello sulla testa! Anche cadere adesso!
Je crois qu'elle fait partie d'une famille. Le premier nom qui vient tout de suite, c'est celui de Jean Renoir. Et quand Boudu sauvé des eaux ou La Chienne, il y a là-dedans des choses qui ont une proximité très grande, très profonde, très, très organique avec ce que Jeanine est. Au fond, elle, comme... Renoir aimait bien prendre dans ses films, surtout ceux des années 30, les gens qu'il avait autour de lui, cette espèce de bande de copains. On imagine très bien Jeanine passer au fond du champ du crime de Monsieur Lange, et passer de la blanchisserie à la cour. Je crois qu'il y a une sorte d'effet de reconnaissance là. Est-ce que vous savez que sa grand-mère s'appelait Marguerite Gauthier et qu'elle habitait rue Alexandre Dumas? C'est la première chose à quoi je pense toujours quand je pense à Jeanine. C'est une fille du peuple, Jeanine. Mmh. C'est une fille du peuple avec ce que le peuple peut avoir de magnifique, justement, comme on le voit dans les films de Renoir des années 30. Et je crois que c'est que quand elle a rencontré Renoir, quand elle a rencontré Rossellini, quand elle a rencontré Buñuel, je crois qu'avec cela, il y a eu aussi un effet de reconnaissance. Elle n'est pas entrée par effraction comme une petite souris dans le monde des grands hommes et des grands cinéastes. Elle avait sa place quelque part dans un coin de ce tableau-là.
Et si je ne le finissais pas ?
Tu vas le finir, dis.
Alors c'est pour ça. C'est pour mes tableaux. Tu me voyais uniquement pour ça.
Non mais pourquoi que ce serait ? Regarde-toi dans une glace.
Imbécile. Idiot dire que j'ai cru à ça. Ah tiens, tu me dégoûtes.
Ben et toi, tu crois que ça m'amusait? Il n'y avait pas eu ton fric, comment que je t'aurais laissé tomber? Oh là là, monsieur voulait être aimé pour lui-même, monsieur voulait de l'amour. Oh, laisse-moi rire.
Saleté. Tu n'es pas une femme, tu es une chienne.
Je cause toujours, hein.
Tu caresses l'homme qui te nourrit, tu caresses l'homme qui te donne des coups.
Si tu savais comme tu m'intéresses, tu te fatiguerais pas tant.
Ah, il te recette en macro. Tu avais bien raison, puisque c'est la seule façon de te prendre.
Il me recette peut-être, mais je l'aime.
Ah, tu l'aimes.
Et ce côté, donc, de militante encore donc autour du cinéma, de l'histoire du cinéma, et puis du cinéma contemporain, du cinéma qui se fait. Bon, ça, c'est parce que, ici, dans cette maison, il y a toujours eu cet esprit, lorsque tu... tu travaillais avec André Bazin, c'était...
Je ne travaillais pas avec Bazin.
Faut pas croire, c'est une grosse illusion. On ne peut pas dire que j'ai travaillé avec Bazin. Je peux peut-être un peu plus dire que j'ai travaillé avec Labarthe dans certaines mesures, mais c'est quand même lui. Mmh. C'est lui le réalisateur, c'est lui le critique, c'est lui tout, etc. Moi, je suis un peu comme celle qui fait le lapin, quoi, grosso modo. Bon, mais... j'ai peut-être en raison des circonstances de la vie de Bazin, qui était malade et tout, etc. J'ai finalement peut-être plus appris de choses en travaillant avec Labarthe qu'avec Bazin. Ce que j'ai appris avec Bazin, c'est de toute façon, dans les gens qu'on fréquente, si on les choisit, comme ça, c'est pour certaines raisons, même inconscientes. Et donc, c'est plutôt au niveau de l'osmose que de l'apprentissage théorique, tu vois, ou de discussion, etc. C'est un petit peu comme ça.
C'est ce que Michel Simon appelait la peau. Hein,
exactement. La peau. Mais si tu veux, par rapport à Bazin, comment te dire ? Alors, j'étais sur les côtés, mais peut-être des côtés qui étaient utiles, qui sont utiles, mais où je me trouve très bien. Je veux dire, moi, je n'ai pas de regrets. Mais bon, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas m'attribuer des qualités, des possibilités intellectuelles, tout ça, que je n'ai pas. Je suis quelqu'un un peu comme une midinette privilégiée qui a eu la chance de... etc. Voilà. Je veux dire, c'est un peu décevant, parce qu'on imagine que la veuve Bazin est là, etc. C'est autrement qu'elle raisonne, mais... après tout, c'est une façon aussi de...
Mais lorsque tu lisais les textes de Bazin...
Et de tout ça... Autrement, je les lisais, mais je les tapais d'abord à la machine. Alors, voilà. Forcément, je les lisais.
Et donc, tu discutais avec lui de ce que...
Oui, mais ça dépendait des cinéastes. Je veux dire, par exemple, moi, j'étais probablement plus sensible à la sensualité de Renoir que lui, peut-être. Et puis, c'est aussi, je vais te dire, la façon dont... Je voulais travailler avec Bazin. Ça a l'air rigolo, c'est que lui, il se souvenait jamais des scénarios des films. Mmh. Voilà, moi oui.
Ouais.
Bon, mais c'est pas plus, je veux dire. Faut pas essayer de croire ou de faire croire que voilà.
Qu'est-ce qu'il retenait?
Ça m'ennuierait beaucoup.
Qu'est-ce qui pour lui
traversait le film? C'était l'ensemble du film. Ouais. C'était probablement la mise en scène pour les grands films, mais même pour les petits films, je veux dire, tu vois, voilà, c'est tout. Bon, je suis probablement une veuve abusive pour plein de choses, mais pas pour ça.
André Bazin, le cinéma est par essence matériel, technique, esthétique même, un art des masses et du peuple. Il ne peut donc pas être question d'un cinéma qui ne plairait pas aux masses, pour cette bonne raison que s'il ne plaisait pas aux masses, il n'y aurait plus de cinéma. Il n'y a de film que s'il plaît aux masses. Hein, toutefois, il est vrai aussi que le cinéma change. Il ne faudrait pas croire, comme on pourrait le penser à cause des fondements financiers, matériels très lourds du cinéma, que le cinéma est un art établi à l'étiage le plus bas des goûts du public.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense en effet que Bazin, de toute façon, les autres le disent, donc je ne vais pas dire le contraire. Bon, mais je pense qu'il a eu une grande chance, c'est que, par exemple, il y a eu Wells. C'est vrai que Wells est arrivé comme ça, comme une bombe d'Hiroshima, quoi. Bon, et puis il y a eu la chance du néoréalisme italien, même si le terme néoréalisme est pas bon maintenant, c'est quand même toute une espèce de vague, comme la nouvelle vague est arrivée après. Mais Bazin n'a pas connu la nouvelle vague, mais il a connu la vague du nouveau réalisme italien. Et je pense que ça a été une chance pour lui, parce que je pense que s'il avait eu à passer son temps... Tu sais, il a écrit dans tout. Bon, donc il a écrit sur tous les films. Et c'est pas vrai qu'il crachait sur tous les cinéastes français que la bande Truffaut, etc., a rejeté. Bon, mais s'il n'a vu que ça se mettre sous la dent, je pense qu'il ne serait pas le grand critique dont on dit qu'il est maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu...
Il y a une convergence de choses qui a fait que son talent...
C'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu le talent critique et les choses qu'on a à montrer, à voir. Voilà, c'est ça, quoi.
Le réalisme de Rossellini n'a rien de commun avec tout ce que le cinéma, sauf celui de Renoir, a donné jusqu'alors de réaliste. Ce n'est point un réalisme du sujet, mais du style. Il est peut-être le seul réalisateur au monde à savoir nous intéresser à une action, tout en la laissant objectivement sur le même plan de mise en scène que son contexte. Notre émotion y est pure de toute sentimentalité. C'est qu'elle a été contrainte de se réfléchir sur notre intelligence. Ce n'est pas l'acteur qui nous émeut, ni l'événement, mais le sens que nous sommes contraints d'en dégager. Dans cette mise en scène, le sens moral ou dramatique n'est jamais apparent à la surface de la réalité. Pourtant, nous ne pouvons éviter de savoir quel il est, si nous avons une conscience. N'est-ce point là une solide définition du réalisme en art ? Contraindre l'esprit à prendre parti sans tricher avec les êtres et les choses. André Bazin, qu'est-ce que le cinéma ?
Non, ce que je me souviens, c'est aussi avec lui, c'est de ma première rencontre avec Rossellini. Enfin, si je peux dire, je l'ai vu, je ne peux pas dire que je l'ai rencontré. Mm-hmm. J'ai vu, c'était l'époque de... du Paysa. Et... il était mince. Il était mince, nerveux, fébrile. Mm-hmm. Tu vois, après, on a toujours l'impression de l'avoir eu toujours un peu bedonnant, quand oui, même. Moi, je l'ai quand même vu mince. Mm-hmm.
C'est encore l'un des cinéastes qui a compté, quoi, pour toi.
Ah ça. Oui, oui. Beaucoup.
Essentiel.
Par les films et puis par lui-même aussi, tu mm-hmm. vois. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a des cinéastes où t'as le sentiment que ça t'a pas fait chaud au cœur de les rencontrer. Et que peut-être que tu serais contenté d'aimer leurs films, quoi. À vrai dire, dans le fond, je crois que c'est souvent ça. Faut pas non plus croire qu'ils ressemblent toujours, tu vois, à ce que tu attends, quoi. Mais Buñuel, Rossellini, Buñuel surtout. C'est un type magnifique, Buñuel.
Ça ne vous en dit pas que je vous touche le mollet? Oh, ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre de moi, absolument rien. Vraiment, ça ne vous ennuie pas?
Non, monsieur.
Continuez.
L'horrible tête flamboie, saignant toujours, mettant des cailloux de pourpre sombre aux pointes de la barbe et des cheveux. Visible pour la Salomée seule, elle n'étreint pas de son morne regard les rosiers.
Marie, quelle est votre pointure?
Comment, monsieur?
Votre pointure pour les chaussures.
35.
Une minute. Ah, c'est ça, la rose des vents. Voilà, chaque soir, quand vous viendrez me voir, je vous ferai mettre ces bottines. Cela m'évoque des souvenirs, vous comprenez? Pendant la journée, ce n'est pas la peine, mais le soir, vous me feriez plaisir. Un instant.
La muse est la grande force, c'est pour moi c'est une grande force créative et destructive, n'est-ce pas? Dans une société comme la nôtre, où l'amour n'existe presque pas, où l'éclosion de l'amour est presque impossible, le véritable amour, c'est pour ça qui m'intéresse comme un grand canon, comme une bombe atomique, l'amour. Je suis déjà vieux, mais je continue à avoir un grand respect pour cette idée.
La couleur du civet. Alors avec quel vin t'as fait ça? Tu peux nous dire? Non, tu ne le livres pas, c'est secret. Hein. Pas de secret.
Je ne vais pas vous le dire.
D'accord.
Allez,
tu l'embarques? Allez, je vais embarquer les patates, moi. Prends le civet.
Allez. Je le lâche.
Non, surtout pas. Allez.
Chaud devant.
Allez, on y va.
Ouf. Ouais. J'ai bien cru que je le lâchais, parce que tu as vu, c'est chaud, vraiment.
Très chaud. Superbe bête.
Ça, faut choisir, hein.
Alors,
mais non, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il y a trois cuisses, les enfants.
Ah,
alors, je suis pas une salope, hein. Moi, ce que j'aime, c'est faire le lapin. La cuisine, on la fait pour les autres. On la fait pas pour soi.
Règle d'or.
Pour soi, on grignote un bout de saucisson, un oignon... quelques olives, voilà. Et un coup de pinard.
Ah, je vois que tu as retenu ma leçon.
Oui, oui.
D'austérité.
Je la pratique souvent quand je suis toute seule, je vais te dire. Ce qu'on s'est toujours efforcé, c'est que les cinéastes qui faisaient des sujets sur d'autres cinéastes aient quelque chose de commun avec eux, enfin, un même esprit, que ça les intéresse vraiment. C'est pour ça qu'il y a eu... pas vraiment d'émissions faites par des critiques ou participer des critiques. Parce que les critiques, de par leur formation, leur fonction, etc., parlent un peu de tous les films, je veux dire. Tandis que les cinéastes, par contre, ils ont, disons, ou une influence, ou un maître, ou un cinéma national qui les intéresse plus. Mais c'est très, très ciblé, je veux dire, ce qui les intéresse, je veux dire. Bon, par exemple, Fieschi a fait une émission avec nous sur Pasolini. Ensuite, il a fait un film sur Alain Cuny, pas pour nous, mais pour Arte. Et il est en train de commencer à tourner un film sur Rouche. Mais je veux dire que je ne viendrai pas à l'idée de demander à Jean André de faire un film sur... disons, cherchons un cinéaste un peu choc américain, parce que c'est pas son univers, quoi. Je veux dire, ce qu'on a toujours essayé, c'est de réunir deux univers. Voilà. Oui, il y a eu des manques, parce que on n'avait pas d'émission avec les gens. Je veux dire, on n'a pas fait d'émission sur Fassbinder. On n'avait pas d'émission et Fassbinder est mort. Bon, il y a des cinéastes qui, pour les chaînes de télévision, sont has-been, quoi, si tu veux. Par exemple, l'école new-yorkaise des années 70-80, ils savent pas qui c'est, quoi. Je veux dire, à mon avis, c'est difficile de leur proposer une émission sur Bécasse, sur les frères Bécasse, sur etc. Donc,
À ton sens, tu as pu sauver quand même le principal de ce que tu voulais sauver comme...
Un peu, oui. Mais ce qui me chiffonne, c'est qu'on ne peut plus prendre de risques. Je veux dire que l'ORTF, avec tous ses défauts, on pouvait faire des coups. C'est-à-dire que, par exemple, bon, le coup de Cassavetes, ce n'était pas prévu. Par exemple, le coup de... etc. Et bon, Fuller passant à Paris, on a tourné en 4 jours une émission avec Fuller... a priori, c'était pas prévu, tu vois. Bon, donc un type passait, on jetait dessus, on pouvait filmer. Alors que maintenant, il faut que ça soit prévu en programmation, tout, etc. Alors donc, à ce moment-là, les cinéastes, c'est pas vraiment des anguilles, mais ils sont pas toujours à attendre. Alors on est obligé de leur en parler pour savoir si on a leur accord. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, on leur donne plus de nouvelles. Donc ils nous prennent pour des rigolos, quoi. Nature was indifferent to the cruel destiny of man.
Il y a 30 ans, personne, lorsqu'on est allé voir les cinéastes américains, par exemple, ils étaient surpris parce que jamais personne, et surtout pas les Américains, n'était venu les interviewer. Donc ils étaient surpris. Et la cinéphilie américaine, elle s'est réveillée beaucoup plus tard. Elle s'est réveillée, à mon avis, avec Bogdanovich, qui a fait un film sur Ford, mais 2 ou 3 ans après que nous, on ait fait le nôtre, par exemple. Donc ils ont découvert leur cinéaste après les Français, et à mon avis, sous l'influence des Français, que ce soit les cahiers du cinéma ou, pour ce qui est de l'image, de la série cinéaste de notre temps. Tous ces cinéastes qu'on a filmés aux États-Unis, et quelques-uns même en France, on les filmait sans que ça nous engage. C'est-à-dire qu'on disait, si ça fait un film, ça fera un film, sinon tant pis, ça sera dans les archives, et ça rentrera plus tard dans un film, voilà. J'ai filmé comme ça des tas de gens.
C'était le luxe, ça.
J'ai filmé Gene Kelly, Hawks, on n'a jamais fait les émissions, Mamouliane, Hitchcock, tout ça, ça n'a jamais été...
Et tout ça, ça existe.
Mais tout ça, ça existe, à condition que l'INA ne les ait pas perdus, évidemment. Alors, et aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. D'abord, parce que tout le monde est cinéphile. Donc, la cinéphilie vaut plusieurs grand-chose. Elle n'est pas très intéressante, je trouve. Et ensuite, tout le monde fait des films sur des cinéastes. Il n'y a pas un cinéaste qui n'ait pas été filmé. Donc, ça pose des problèmes de sélection. Mais la sélection ne suffit pas pour caractériser une série, comme le cinéma de notre temps. Alors, donc, il y a d'autres critères, mais des critères non écrits, comme une loi non écrite. Et dont il est très difficile de parler. Il y a quelques années, par exemple, on avait envisagé de faire... Angelopoulos, enfin d'autres comme ça. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus du tout, on l'a pas fait, on n'a plus du tout envie. Et on n'a pas du tout envie, pourquoi ? Je sais pas, Kieslowski, même chose. Alors, Angelopoulos, on avait déjeuné avec lui, tout ça, ça s'est très bien passé. Klisowski, je l'avais rencontré chez des amis. Et après cette rencontre, j'ai vu ses films différemment et je trouve pas, je crois pas que ce soit finalement un grand cinéaste. Et je crois qu'Angelopoulos, c'est un bon élève de l'IDEC, enfin, etc. Des choses très subjectives. Hein. Il y a un moment. Wenders, on l'aurait fait peut-être au bout de ses deux ou trois premiers films, mais aujourd'hui, on le fait pas. On le fait pas. Ça n'empêche pas Arte d'acheter un film fait, je crois, par les Allemands sur Wenders pour pouvoir le passer. Parce que la politique d'Arte n'est pas la nôtre, et vice-versa.
Il y a le tandem André-Janine qui est absolument fondamental.
Xavier Carniaux.
Janine a un sens tout particulier du mariage, de l'idée de mariage entre un réalisateur qui fait le film et un autre sur lequel on le fait. Bon, je veux dire, c'est vrai que quand Janine nous a parlé de Kiarostami et de Jean-Pierre Limousin, c'était peut-être pas totalement évident, et puis pour finir, ça a vraiment donné un film qui est, je crois, tout à fait important. Quand Janine parle de Ripstein, c'est vrai que là, il y a une, dans le sens où ils l'ont toujours entendu sur Cinéaste de notre temps, à la fois une nouveauté, une modernité, mais déjà une œuvre, déjà, et quelque chose qui se continue. On doit être à peu près à 25 numéros entre ceux que nous avons réédités et ceux que nous avons produits. Donc il y a là une sorte maintenant de mosaïque où c'est un peu comme dans ces jardins dans lesquels il y a un certain nombre de pierres au milieu du gazon. C'est pas vraiment un chemin, mais on sait que en passant de pierre en pierre, on va arriver quelque part en ayant visité quelque chose et en n'ayant pas totalement oublié de où on venait. Donc effectivement, de ce point de vue, il y a une jubilation. C'est une autre jubilation. C'est vrai que Janine, c'est quelqu'un qui fait aimer le cinéma. On a envie de la suivre parce qu'elle est capable de passer de l'anecdote à l'analyse. Elle est capable de tisser comme ça une toile entre les gens, de montrer le rapport qu'il peut y avoir entre Lang et Wu Xiaoxian. Enfin, on fait comme ça un certain nombre de traversées de l'univers qui sont éclairantes et qui sont effectivement jubilatoires.
Mais Paris nous appartient, il y a le mot appartenir. Qu'est-ce qui t'appartient à toi ?
Qu'est-ce qui appartient à qui que ce soit ? Je crois qu'en dehors de sa propre peau et en dehors, et même est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle nous appartient, qu'on en est le propriétaire ? C'est un sentiment qu'on n'a pas toujours, qu'on a parfois et que...
Tout à coup, je me suis dit, mais est-ce que même c'est moi qui peux témoigner de Jack Rivette, quoi ? Est-ce que c'est ma place ? Après tout, il y a des gens qui ont, en définitive, plus travaillé avec lui que moi.
Claire Denis.
Et puis Jacques m'a dit que c'était de la vanité, quoi. Enfin, il m'a fait comprendre que c'était des chichis. Et donc, au fond de moi, j'étais contente d'accepter. Et puis surtout, j'étais incroyablement... touchée que Jacques me l'ait proposé. Mais j'avais toujours pas rencontré Janine Bazin. Et une semaine après, Janine m'a appelée. Et elle a voulu me voir et parler. Et elle aussi, pour moi, elle faisait partie de l'histoire du cinéma. Donc j'ai eu vraiment l'impression que c'était une des choses les plus importantes qui m'arriverait jamais, quoi. Enfin, j'étais en train d'écrire un scénario, j'ai un peu tout laissé tomber, quoi. Parce que c'est ça qui a été le plus formidable, c'est que tout de suite, elle a pris le travail en main, quoi. Elle m'a donné je devrais parler de Serge Danet maintenant, mais bref, elle avait photocopié beaucoup, beaucoup de critiques qu'avait écrit Jacques, elle avait rassemblé, elle avait déjà fait une grosse part du travail. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est-à-dire qu'elle me... Elle me fournissait de la docu. Mais surtout, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'elle me parlait de Jacques comme personne m'en avait jamais parlé, c'est-à-dire amicale, pleine d'humour, pleine de malice. Et tout d'un coup, ça m'a donné du cœur au ventre. De penser qu'on pouvait... qu'à travers elle, je comprenais mieux ce qu'il fallait faire. C'est quand même Jeannine qui m'a montré la voie de la simplicité et peut-être un peu de l'humour aussi. Parce que j'en avais pas tellement... Déjà, ce qui était très bien, c'est qu'elle m'a raconté comment elle avait tanné Jacques pour qu'il accepte. Donc déjà, je comprenais qu'elle était déjà harassée à ce stade-là. Moi, ça commençait, mais elle avait l'impression... Elle avait l'air de dire, bon, vous allez pas vous plaindre en plus. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est juste une formalité. N'en faites pas une montagne, quoi. Je dis pas qu'elle banalise la quantité de travail qu'elle fait ou la qualité des liens qu'elle a tissés avec les cinéastes. Mais c'est elle le dit comme normal. Voilà, on sait toujours quel est le paysage avec Jeannine.
Est-ce que toi, tu t'es essayé donc à la critique cinématographique ?
Oh, pas du tout, je m'en garderai bien. Si tu veux, je m'en garderai bien, parce que dans la mesure où j'aurais plutôt envie de m'intéresser aux films que j'aime pas que ceux que j'aime, parce que je trouve mieux les mots
Donc, tu ne
pour dénigrer que pour admirer.
Alors que Bazin, lui, aimait toujours trouver dans les films...
Oui, bien sûr, mais ben, Bazin, c'est un type généreux, moi. Ouais. Moi, je suis une emmerdeuse, Il y a des films où je flaire, où je les ai vus, et je sais pourquoi ils ne me sont pas... Mais c'est moins difficile de trouver les mots pour écrire une lettre désagréable que pour écrire une lettre d'amour. Voilà. Et ça, je le sais. Parce que je fais très bien les lettres désagréables.
Dans tes tiroirs, est-ce que, par exemple, là, il y aurait des scénarios ?
Non, ça, le scénario que j'écrirai, il ne sera envoyé à un réalisateur qu'après ma mort. Hein. Tu vois. Non, il y a
des... Mais il est déjà écrit.
Non, il n'est pas écrit. Il est écrit dans ma tête, comme ça. Moi, ce que je trouve bien dans le cinéma, c'est quand on s'intéresse au lieu. Donc, je pense que mon histoire, si tu veux, passera par des lieux. Pas par des choses, des événements, mais c'est les lieux où il y a l'événement. La petite vieille qui est au coin de la rue, que j'ai vue il y a 5 ans ou 10 ans, qui se remettait un jour de pluie, son petit chapeau de pluie, là, tu sais, les machins qu'on nouait là un peu, capuchon transparent, en se regardant dans un rétroviseur de voiture, quoi. C'est ça que j'appelle des lieux, c'est pas des villes, c'est pas des pays privilégiés, moi. De toute façon, il n'y aura sûrement pas de scénario, de Bazin et de film. Ça alors, non, sûrement pas. C'est que je déchire, je me suis fait engueuler par ma voisine, là, cinéphile et tout, là, qui, elle, conserve tous les photos, etc. Mais je lui ai dit, moi je jette tout, ma chère, parce que comme ça, ils ne sauront rien de moi. Tu vois ?
Ils sauront rien de moi.
Oui, oui. Non, mais je ne suis pas très confidente, moi. J'aime bien. J'écoute celle des autres et je ne répète pas, mais je ne suis pas très... Voilà. Donc, je ne ferai pas un film autobiographique. Jamais. Ni un roman, ni un carnet de notes, ni des photos, ni etc.
Je trouve que c'est un très bon moment. D'abord, ça tombe quand l'hiver nous tombe dessus, donc on a la possibilité de s'enfermer dans les sols obscurs et puis de rêver un peu.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de voir plus que d'autres parmi les propositions qui sont faites par le festival ?
Oui, j'aimerais revoir certains films dont je n'avais pas beaucoup profité à l'époque, comme Une chambre en ville de Jacques Demy, et puis aussi la sélection, les films en compétition. Ça m'intéresse de voir les films... des jeunes, comme celui qu'on avait vu l'année dernière de Pascal Ferrand, qui était très très beau. J'aimerais bien suivre la compétition le plus possible.
Là, on a été voir Le Sentier de la Gloire de Stanley Kubrick.
Et alors ?
Alors, c'est très bien. Ça montre beaucoup de choses sur l'armée. Enfin, ça me tourne un peu en dérision
Beaucoup de choses.
Disons qu'on est, nous, on a été invités parce qu'on est des élèves à Troyes. Et donc ce matin, on a présenté des films qu'on avait préparés au bac, pour le bac. Donc voilà.
Puis en plus, c'est gratuit.
Voilà. En plus, c'est gratuit, on est invités, donc voilà.
Belfort a achevé de m'informer. D'abord parce que c'était l'année de la rétrospective de Shine. Et que je crois que c'était assez incroyable de voir Shine et Janine ensemble. Parce que finalement je trouve qu'ils se ressemblent assez, quoi. C'était joyeux, bougon et plein d'humour, mais d'un humour un peu vraiment percutant. Voilà. Alors il y avait quelque chose autour des tablés qui allait bien. C'est-à-dire qu'après avoir vu 4 films, après avoir discuté des heures dans des cafés, retrouver Janine à table à minuit, fraîche, alors que moi j'étais une loque, mangeant un bloc de foie gras et en ayant quand même fait une balade dans les vignes l'après-midi pour qu'un cinéaste puisse voir des vignobles et tout ça, et nous faisant goûter des vins et pleine d'entrain, alors que moi j'étais bonne pour la tisane, mais j'étais bonne pour le lit en fait, quoi.
La meneuse de revue.
Meneuse de revue, puis surtout elle veillait au gras parce que elle surveille son. Moi j'étais dans le jury, donc elle surveille son jury quand même. Elle avait quand même. Elle vérifie qu'on fasse pas trop de conneries.
Elle sent les tensions.
On en a fait cette année-là. Et. Ah, moi je considère pas, mais je crois qu'elle le pense. Et. Elle s'est pas gênée pour nous le dire.
L'argent n'est rien. Ce qui compte, c'est l'esprit. Et Janine a introduit 2 choses. D'abord une sélection rigoureuse, et ensuite, à côté de la sélection des jeunes auteurs, elle a introduit une dimension de la mémoire en faisant projeter des films anciens ou en faisant connaître un certain nombre de réalisateurs, je pense à Ferreri, à Moretti, à Fassbinder, à Montielman. Bien sûr, la sélection est quelquefois un peu pointue, mais je dirais, il y a maintenant des habitués, il y a un public, et puis surtout, il faut bien le dire, il y a à chaque fois une thématique qui domine le festival, qui conduit à choisir un certain nombre de films.
Jean-Pierre Chevènement.
Naturellement, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai fréquenté la cinémathèque, voilà, dans ma jeunesse. Hein.
Vous avez rencontré Janine à la cinémathèque.
Hein. Non. Oui. Donc, j'aime le cinéma, mais Janine m'a énormément ouvert l'esprit, m'a fait découvrir des choses que j'ignorais. Mm. Par exemple, le film de Rossellini sur l'Inde. Mother India, je crois. Hein. Combien d'autres, enfin. Avec le temps dont je dispose, Janine m'ouvre un espace dont je profite autant que je peux chaque année.
Et parmi les découvertes donc de jeunes réalisateurs à Belfort, est-ce qu'il y a aussi bien des cinéastes français que des cinéastes étrangers pour lesquels vous avez eu un choc émotif particulier ?
Il y a eu un film, il y a quelques années, Clémentine Tango, non ? Et un autre, Y aura-t-il de la neige à Noël ? C'était cette année. J'ai vu à Belfort les premiers films de Wedraogo. Ça m'a vraiment fait découvrir un monde que j'ignorais. Évidemment, au mois de novembre, les frimas sont souvent là. Il arrive qu'il neige, mais en général, pour les cinéastes, ce n'est pas un inconvénient. Hein, on travaille en salle. Et je crois qu'il y a un courant de sympathie extrêmement fort qui s'est créé entre Belfort et le festival, entre les gens de cinéma qui fréquentent Belfort à cette saison, et puis les Belfortins. Je crois que tout cela est évidemment dominé par la figure de Janine. Je crois que nous l'aimons. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer. Cette femme irradie la grâce. Et en même temps, nous sentons en elle un esprit toujours à l'affût, éveillé, un regard lucide sur les choses, beaucoup de générosité à l'égard des jeunes réalisateurs. Mais Jeannine a une exigence qui est aussi l'exigence du goût. En politique aussi, on peut avoir une certaine exigence. Disons que nous sommes tous les deux des êtres assez entiers. Et en même temps, je dirais que le courant passe bien entre nous.
Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde.
Parce que des choses intenses se sont passées lorsque Truffaut était ici, a vécu avec vous.
Bien sûr que la présence de François et les discussions orageuses avec André m'ont aussi influencé, je veux dire. Mais influencé comme quand on attrape la varicelle, parce qu'il y a la varicelle à l'école, mais jamais dans des...
Mais la passion du cinéma s'est installée ici, et elle ne t'a pas quitté.
Oui, mais moi, au départ, j'allais surtout au théâtre, tu vois. Pendant la guerre, je suis surtout allée au théâtre, et au début, je me suis occupée de spectacles. Dans le fond, ce que j'avais envie, c'était, que ce soit du théâtre ou du cinéma, c'était de montrer, d'emmener les gens, voir des choses que j'aimais. C'est tout, quoi. Dans le fond, c'est ça. Que ce soit... les festivals, que ce soit cinéma et cinéaste de notre temps, c'est de montrer, c'est d'essayer d'intéresser les gens, de faire regarder aux gens des choses que moi j'aimais, voilà. Belfort, dans le fond, c'est comme ça. Je veux dire, qu'il s'agisse des vieux ou des nouveaux films, c'est comme ça, quoi. Non, ma grande découverte du cinéma, parce que j'allais quand même au cinéma pendant la guerre, j'ai dû voir tous les films, tous les... premier, Daniel Darieux et tout ça. Mais je crois que c'est Citizen Kane. C'est un copain qui m'a emmené voir Citizen Kane la première fois que c'est sorti à Paris, quoi, je veux dire. Tu vois, ça... Et en plus, c'était au Marbeuf, les fauteuils étaient bons. Je suis sensible à des trucs. Je veux dire, tiens, par exemple, il y a un film dont... Une image me poursuit, c'est les carabiniers. Et les carabiniers, tu te rappelles quand les deux nigauds, on peut dire, les deux nigauds malfrats, tout, etc., vont au cinéma. Et ils se lèvent, et ils savent pas ce que c'est, ils vont toucher l'écran. Mais ça me hante à un tel point que je suis allée voir Forever Mozart. Dans une petite salle, projection privée... c'était au premier rang, moi, parce que vu ma taille, pour ça que des fois, dans les salles commerciales, je vois que la moitié des films, parce que, bon. Eh bien, les femmes sont si belles dans ce film, tu vois, tout dans le début, si belles, si belles. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai eu le mouvement des deux nigauds de carabiniers. Voilà. Ouais. Dans le fond, c'est comme ça que les films me touchent, quoi, tu vois. Bon, voilà.
Il y a plusieurs choses. Elle a une vraie fidélité, mais une fidélité qui n'est pas de la complaisance. C'est-à-dire que c'est une fidélité qui se mérite à chaque fois. Je veux dire, y compris d'un point de vue esthétique par rapport au cinéaste qu'elle aime ou qu'elle défend. C'est une très grande rigueur. Et puis, c'est aussi une espèce de conscience que le cinéma est une histoire et qu'il faut pas perdre les repères, quoi. Ça, c'est important.
Alors,
au revoir.
De choisir des cinéastes qui nous plaisent, parce que ça, après tout, c'est pas ça qui fait une philosophie ni une politique. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une recette pour la façon d'approcher les cinéastes. Mais peut-être il faut une certaine liberté, voilà, peut-être. Peut-être qu'il faut une certaine liberté d'approche. Et souvent, les cinéastes, même estimables, ne savent pas utiliser la liberté qu'on leur donne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sente le point de vue du cinéaste qui filme. Alors, chacun a sa méthode. Ce qui fait le point commun de cette série...
Et est-ce qu'on pourrait imaginer Jeannine Bazin par André Labarthe ? Ou l'inverse ?
Je ne sais pas, ce serait sûrement plus difficile à moi qu'à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Parce que sinon, il va y avoir une sorte de comédie. Parce que je connais la plupart des réponses. On va jouer chacun son propre personnage.
Que vous connaissez.
Je ne crois pas beaucoup. Parce qu'il faut connaître les gens, mais en même temps, des fois, pas trop. Moi, par exemple, j'aime pas repérer, par exemple. Justement pour ça. J'aime bien arriver... Et voilà, on filme, même des choses, même quand c'est une maison, j'aime pas repérer. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se passe quelque chose, et si on décide que non, c'est pas intéressant, on se prive peut-être d'un miracle. Ouais. Finalement, c'est le mot miracle qui convient le mieux. Il faudrait essayer de maîtriser les choses au point de retenir le moment... miraculeux. Puis il y a des choses qui marchent pas. Il y a des choses qui, des fois, les sujets, les projets sont avancés, comme on devait faire Montero, c'est Limousin qui devait faire Montero, et puis rendez-vous était pris, tout ça, et puis Montero a disparu dans la nature. Mais c'est bien ça aussi. Alors évidemment, il y a des choses. Il y a une petite opposition avec Jeannine, c'est que Jeannine pense que lorsque les cinéastes se montrent difficiles, il faut dire, s'ils veulent pas, s'il faut, tant pis, on laisse tomber, etc. Moi, je trouve que souvent, c'est intéressant, les cinéastes difficiles. Les cinéastes que je trouve, qui a 30 ans, que j'aurais bien fait, c'était Carmelo Bene, par exemple. Bon, on l'a jamais fait parce qu'il a un caractère impossible. Lui. Mais en même temps, ce caractère fait partie de la liberté des gens. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut aimer chez les gens, c'est leur liberté, c'est pas leur caractère. Jeannine, il faut qu'il y ait les deux. Jeannine, il faut qu'elle ait le coup de foudre pour le cinéaste, mais pour aussi l'homme ou la femme qui est derrière.
Donc, oui, je disais, le film de ce que j'ai vu là, très récemment, c'est le film de Philibert, La moindre des choses. Et je trouve que c'est plus qu'un film remarquable, c'est un film qui a le vrai regard et la vraie communication avec ces gens qui sont un peu déphasés, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence quand tu regardes, quand tu es dans le film de Philibert, enfin, je dis dans comme spectateur, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et toi, voilà. Et ça, c'est la manière dont Philibert travaille avec eux. En plus, il a vécu avec eux, il a monté le spectacle, enfin, donc... Il n'y a jamais de regard de voyeur. Moi, ce qui me gêne dans les films où on filme des gens qui ne savent pas ensuite ce qu'on fait de leur image. Je veux dire, par exemple, j'ai toujours été très gênée par deux films de Depardon, qui a un grand talent, indépendamment de ça, mais c'est son film sur Saint-Clémente, où on voit ces foules qui tournent comme ça dans une pièce blanche, etc. Ils sont désemparés, ils ne savent pas pourquoi on les filme. Et puis son film qui est Urgence à l'hôpital Bichat, où moi je me mets dans la situation d'être dans cette espèce de détresse et d'arriver à Bichat, et j'aimerais pas qu'on me filme. Et puis j'ai adoré le film d'Anne-Marie Miéville, qui s'appelle Nous sommes tous encore là. Voilà. Je trouve que c'est le plus beau cinéaste de notre temps que j'ai vu.
Mais c'est une vieille complice de Belfort,
Anne-Marie. Non, Anne-Marie, elle est venue une fois. Elle est venue une fois quand on avait présenté son premier film et qui avait été primé. Mais moi, je l'avais connue un peu avant parce qu'elle était venue avec des amis à Orléans. Et je pense qu'on ne se ressemble pas du tout. On n'a pas toujours les mêmes préoccupations. On en a certaines en commun. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'affection entre elle et moi. Voilà. qui perdure comme ça.
Mais dans ton amour du cinéma, il n'y a, ce qui est rare chez les gens, aucune nostalgie, aucune coupure entre l'histoire, la grande histoire du cinéma, on pourrait dire, et puis l'actualité du cinéma. C'est-à-dire que tu es toujours aussi vigilante avec ce qui se passe, ou alors est-ce que tu as des nostalgies, des regrets, des choses sur lesquelles le temps enfuit,
le talent perdu. Pas nostalgie, pas regret, pas etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, je trouve un peu plus tonique de voir un vieux film qu'un très jeune, sauf exception, je veux dire, tu vois.
Il y a des gens avec qui j'ai peur de parler de cinéma, parce que j'ai l'impression que j'ai pas une tête assez bien structurée ou assez théoricienne, que finalement, en définitive, je sais même pas si je suis vraiment cinéphile. Mais avec Janine, je peux. Je le fais pas énormément, mais je peux. Parce qu'elle me... Elle me suggère, quoi, que on a le droit de penser ça, ou elle me suggère que qu'on peut s'exprimer de telle ou telle façon. Il n'y a pas de chape, il y a pas de langue de bois, il n'y a pas de chape de plomb, enfin toutes ces expressions.
Pas des interdits,
non.
Habituels.
Ah non, non, non.
Est-ce que vous avez toujours choisi des acteurs avec qui vous pouviez parler, enfin, avec qui vous aimez
bien
vivre,
sûr.
Enfin. Mais faut... ça, c'est rare, enfin, parce qu'il n'y en a pas tellement.
Et puis, il y a aussi une autre histoire. C'est que il y a sur Terre des quantités de liens qui ne s'expliquent pas. Des liens qui ne sont pas à l'amour, qui ne sont pas sexuels, qui ne sont pas même sensuels, qui ne sont pas intelligents, qui ne viennent pas de goût commun, mais qui existent tout de même. Quand j'essaie d'expliquer ces liens, j'appelle ça du radar. C'est comme le radar, n'est-ce pas ? Alors, il y a du radar avec certains êtres, et il faut faire des films avec les gens avec lesquels on est réunis par ce radar. Sinon, c'est pas la peine. Ça ne compte pas.
Dans les cahiers du cinéma, dans les années 50-60, et cinéastes de notre temps, après 64, et cinéma de notre temps aujourd'hui, et le festival de Belfort, qui est contemporain, eh bien, il y a le même, je trouve, le même esprit qui circule et qui appartient vraiment en propre à Janine, qui est une façon de faire les choses de façon non dogmatique et de manière à ce que la vie, mais la vie courante, quotidienne, circule là-dedans. C'est-à-dire la vie qui consiste à ce que les choses soient plutôt agréables, à ce qu'on mange bien, à ce que les gens se sentent bien, etc. Elle a toujours fait attention à ça. Elle a toujours pensé que c'était plus important, les gens qui savaient apprécier ça, que les gens qui s'y s'enfermaient. Et pourtant, Dieu sait si elle a connu des gens qui ne buvaient à table que de l'eau, comme Truffaut et pas Rivette, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Oui, mais Jean-Luc, les repas qu'elle organisait au moment du festival de Cannes autour de Renoir ou de Buñuel ou d'autres, eh bien, ça ressemblait au repas qu'on organisait lorsqu'on tournait avec Roger Lénard, Renoir ou Gans, des gens comme ça. Alors, on pouvait penser que c'était une affaire de génération, que la génération d'avant aimait bien bouffer et tout. J'en suis pas si sûr, moi. J'en suis pas si sûr.
Bon, moi, je m'y mets, là, hein.
Tu tiens à quoi, la vaisselle ?
Ouais. Vite fait, bien fait.
Tiens, on a...
Ah, mais bien sûr, il y en a.
Oui, on a du grain pour toi, hein.
Nuit magnétique. Janine Bazin, sous le signe du lion. Avec Andréès Labarthe, Hervé Leroux, Jean-André Fieschi, Xavier Carniaux, Claire Denis, Jean-Pierre Chevènement et les cinéphiles de Belfort. Les voix de Michel Simon, Jean Renoir, Georges Franju, Jacques Rivette, Serge Danet, Pierre Paolo Pasolini, Louis Buñuel, Joseph von Sternberg. Documents INA et Radio France Belfort, Laurent Janvaux. Lecture, Blandine Molinier. Mixage, Véronique Amiot. Jean-Pierre Juncker, Patrick Casals, Marie-Ange Garandeau, Nuit Magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 21 mars 1997 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.